France Inter, franceinter.com.
Bonjour, aujourd'hui de l'Antiquité à nos jours, une histoire peu connue, la conquête amoureuse. C'est dans les théâtres que tu dois te mettre en chasse. Assieds-toi près de la fille que tu convoites, serre-la de près et cherche un prétexte pour engager la conversation. Ovide, l'art d'aimer. ans d'histoire. On n'a pas attendu Casanova ou Don Juan pour apprendre à séduire. Il y a 2000 ans déjà, Ovide enseignait aux jeunes Romains l'art et la manière de conquérir une femme. Et si au XXIe siècle, on drague moins souvent au théâtre que dans les boîtes de nuit, si les Roméo d'aujourd'hui préfèrent utiliser le net ou les annonces de Libé, plutôt que de séduire Juliette au pied d'un balcon, si les femmes sont moins sensibles aux muscles et aux prouesses guerrières de leurs soupirants qu'au Moyen-Âge, et si on ne dit plus compter fleurettes ou faire la cour, mais draguer, les mots signifient toujours la même chose. Seules les méthodes ont changé et on ne drague plus aujourd'hui, comme le faisaient naguère les fondateurs de Rome quand ils avaient besoin de femmes.
Dans 2 mois, les Sabins célébreront leur grande fête des moissons. Préparez vos plus beaux atours, nous irons tous ensemble.
Pour demander la main des Sabines.
Oui, Vulcus, mais à ma manière, la manière romaine. Salut à toi, roi des Sabins. Je suis Romulus, roi de Rome.
Salut à toi, Romulus.
Braves amis Sabins, buvez à la santé de Rome.
Et toi, Romulus, tu ne bois pas?
Le signal, à toi, Stilicone.
Très bien, dans ces conditions,
non. Jean-Claude Bologne, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier une histoire de la conquête amoureuse qui a été publiée au Seuil. Au fond, la conquête amoureuse, c'est un peu le contraire de l'enlèvement des Sabines. Vous dites même qu'au fond, c'est le début de la civilisation.
Oui, on a toujours, on a gardé de 2000 ans d'histoire de christianisme ce mépris pour le séducteur qui a rejailli sur le dragueur aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on a y opposé? Soit le rapt, l'enlèvement, soit le viol, soit le mariage arrangé. Mais la civilisation, pour moi, la civilisation amoureuse en tout cas, commence à partir du moment où la femme a le choix, et le choix de dire non, qui n'est plus laissé ni à ses parents.
Que n'avaient pas les Sabines.
Que n'avaient pas les Sabines. Donc, Le rapt, l'enlèvement, d'ailleurs on peut distinguer le rapt et l'enlèvement des Sabines, on n'a pas demandé l'autorisation des Sabines. En revanche,
Et encore moins des Sabins.
Mais en général, le rapt, c'est un enlèvement avec l'autorisation de la jeune fille, et c'est une belle histoire d'amour. Le rapt se fait contre la famille, contre les parents qui refusent le mariage. C'est déjà un tout petit progrès, mais l'enlèvement, le viol, se font sans le consentement de la femme, et vraiment, l'idée de dire que la femme peut dire non est le fondement de la liberté amoureuse.
Et de l'histoire de la conquête amoureuse qui commence précisément à Rome, où on n'enlevait plus des Sabines du temps d'Ovide, mais c'est lui au fond qui a codifié un peu cette conquête amoureuse dans son livre L'Art d'aimer, qui est évidemment un peu la Bible justement des séducteurs, en tout cas des séducteurs de l'époque, parce que le nom a changé. Hein. On dit la conquête amoureuse, ça s'est appelé de diverses manières. On disait faire la cour, séduire, galer ou gâter les femmes,
galer,
je crois. Galer les femmes,
le galant,
c'est ce que disait Villon.
Galant, oui.
Hein. Les alourder aussi, c'est nettement moins joli. Hein.
Alourder, c'était le terme du Moyen-Âge, effectivement. Oui, les termes désignent des choses différentes, mais à peu près la même chose, mais aussi des situations différentes. Il ne faut pas confondre effectivement la drague, qui est très caractéristique de la deuxième moitié du XXe siècle, qui est incompréhensible sans la pilule, sans la pénicilline, qui font que les relations sexuelles sont dédramatisées, qui est incompréhensible sans les congés payés, sans les vacances, sans l'émancipation de la femme, la libération des mœurs, etc. Avec le dating dans les années 1920, qui est incompréhensible possible sans l'automobile, sans le téléphone, avec le flirt dans les années 1890-1900, qui est incompréhensible sans la civilisation des loisirs, les paquebots. Et on pourrait remonter comme ça de génération en génération. Il y a des mots différents, avec des techniques qui sont très semblables. Depuis Ovid, effectivement, beaucoup de choses sont codifiées et se répètent d'un manuel à l'autre, mais aussi avec des situations un petit peu différentes. On avait tout à l'heure, juste ce petit détail, c'est l'excès sur le théâtre. On n'imagine pas comme la drague au théâtre ou au cinéma a changé avec l'invention de l'accoudoir, tout simplement, qui n'existait pas au temps d'Ovid.
Mais du temps d'Ovid, on faisait du pied. C'est même lui qui le recommandait dans son art d'aimer. On se collait contre sa voisine, on engageait la conversation. Il y a toujours une chose qui n'a pratiquement pas changé, sauf à l'extrême fin, nous le verrons tout à l'heure, c'est que c'est toujours l'homme qui fait le premier pas. C'est l'homme qui drague, c'est le dragueur, il n'y a pas de dragueuse.
Alors, dans les mots déjà, le registre est emprunté au vocabulaire de la chasse. Ovid a cette image, effectivement, c'est un terrain giboyeux, on part en chasse. Au vocabulaire de la guerre, la conquête amoureuse, c'est un vocabulaire guerrier. Et au vocabulaire de la pêche, la drague, c'est un filet de pêche. Donc effectivement, ce sont des activités masculines. Et depuis toujours, la femme, et j'entends la femme honnête, la jeune fille honnête et la femme mariée, sont interdites du premier pas. Tout ce qu'elles peuvent faire, c'est montrer qu'elles sont disponibles éventuellement.
Alors la façon dont on les considère a quand même changé avec le temps. La femme gibier d'Ovide devient une femme qu'on élève, en tout cas pour certaines d'entre elles, sur un piédestal au Moyen-Âge avec l'amour courtois.
Par Madame la Comtesse de Penthièvre, reine du tournoi, nous proclamons l'écuyer aventureux, Messire Bertrand du Guesclin, vainqueur de la joute.
Au prix de votre valeur. Comme il est dommage que tant de vaillance ne soit dépensée qu'en combat courtois. L'Anglais tient le duché, Messire Bertrand. Nos droits seraient heureux d'avoir champion tel que vous.
Madame, qu'il vous plaise de me dire où sera la guerre. Pour l'amour de vous, je m'y rendrai.
Vous le saurez bientôt, Messire Bertrand.
Muire d'amourette, c'est une chanson du XIIIe siècle, de l'époque de cet amour courtois qui a quand même changé la donne, du moins pour certaines femmes. Elles sont, pour la plupart d'entre elles, pour beaucoup d'entre elles, pour les femmes de la haute noblesse, elles sont sur un piédestal.
Oui, tout en étant que l'amour courtois s'adresse à une femme de condition sociale supérieure. Oui. Ce qui veut dire que, en fait, le respect qu'on leur doit, on le doit avant tout à leur rang. Et avec une femme égale, ou inférieure et naturellement inférieure, car la femme est naturellement inférieure à l'homme, même dans l'amour courtois, on a beaucoup moins de respect. Ce qui veut dire que le respect que l'on doit à la femme dans l'amour courtois est en fait une façon de cacher la profonde misogynie du chevalier qui respecte la femme qu'il aime parce qu'elle est supérieure socialement.
Et inaccessible.
Et inaccessible, enfin, dans le meilleur des cas, si je puis dire, inaccessible, c'est une suzeraine, c'est une femme supérieure socialement et souvent mariée, le plus souvent mariée, donc il ne faut pas qu'il y ait de relations sexuelles, effectivement, c'est un amour chaste.
Et devant laquelle il fait ce qu'aucun homme ne faisait avant cette époque, c'est-à-dire il se met à genoux, parce que c'est le vassal qui se met à genoux devant le suzerain, la femme à laquelle il rend hommage. Je crois que c'est la première fois qu'apparaît ce mot, en tout cas dans les dialogues entre un homme et une femme, hein, mes hommages madame, mais ça vient de là, on rend hommage au suzerain.
Oui, la femme étant supérieure socialement, tous les codes de l'amour courtois sont empruntés au code de la féodalité. On rend hommage à la femme, donc on est l'homme, le vassal de la femme. On s'agenouille comme on s'agenouille devant le suzerain. Le baiser qu'on lui donne est aussi le baiser d'hommage vassalique. Ce n'est pas le baiser profond.
C'est ça le baiser sur la bouche, c'est à l'origine ça.
Pas le baiser profond avec le mélange des langues qui lui est un baiser de courtisane. C'est totalement différent. Mais l'échange des souffles, le baiser sur la bouche, et je ne dirais pas à l'origine, à l'époque de l'amour courtois, oui, il existait auparavant, bien entendu.
Alors ça, c'est vrai pour les femmes de la haute noblesse, pour la duchesse ou la comtesse de Penthièvre qu'on a entendu dans l'extrait de film. Mais alors, pour la paysanne, comment se passaient les choses? Comment l'homme courtisait-il dans les villages, dans les campagnes, les femmes?
Alors là, il faut encore distinguer. C'est vrai pour la femme de la haute noblesse, à condition que ce soit avec un noble de condition inférieure, mais avec son mari, ce n'est pas du tout la même chose. Il n'y a aucun respect pour son épouse, dont on est le maître, chef et maître, oui. Selon saint Paul. Lorsque un seigneur a une inclination pour une femme de condition inférieure ou une paysanne, il n'y a aucune précaution à prendre avec elle parce qu'elles ne peuvent pas connaître l'amour courtois. Et entre deux paysans, on a relativement peu de renseignements, mais on en a quelques-uns, il y a des relations de relatif respect, je dirais, qui peuvent être beaucoup plus directes, mais qui connaissent déjà le cadeau symbolique, par exemple, la pantoufle, l'objet d'intimité, l'épingle qui porte effectivement le symbolisme de la flèche d'amour qui va percer, qui va piquer la femme. Donc il y a déjà une sorte d'adaptation de la mentalité courtoise à un tout autre niveau, et c'est la première fois qu'on a des traces de déclarations d'amour dans des milieux populaires encore très, très, très faibles.
Alors les choses vont changer. D'abord, il y a l'âge classique. Vous dites que l'âge classique, après le Moyen-Âge, c'est vraiment l'apogée, au fond, de l'histoire de la conquête amoureuse.
S'introduit d'autres rapports entre l'homme et la femme, et notamment ça va introduire toutes les stratégies psychologiques. Par exemple, celle de piquer l'orgueil d'une dame en feignant de la mépriser, ou celle de piquer sa jalousie en courtisant une amie de la femme que l'on veut atteindre. Donc toute une série de stratégies qui font appel à toute la complexité de l'âme humaine et qui vont déboucher sur les grandes stratégies du XVIIIe siècle, de la Claude, des liaisons dangereuses, de Casanova.
Oui, les libertins qui considèrent à nouveau la femme comme un gibier, tout juste bon d'ailleurs à collectionner comme le faisait Casanova, vous le dites, Don Juan, ou encore le Valmont des liaisons dangereuses.
Séduire une femme célébrée pour ses vertus morales, sa ferveur et l'éclatant bonheur de son mariage, baste que puis-je espérer de plus prestigieux?
Je trouve quelque peu dégradant d'avoir devant soi un mari pour rival. C'est humiliant si l'on échoue et tristement banal si l'on réussit. N'espérez pas obtenir un quelconque plaisir de cette aventure.
Au contraire. Sachez-le, je n'ai point l'intention de briser aucun de ses préjugés antiques. Je veux qu'elle se cramponne à son Dieu, à la vertu et à la sainteté du mariage, tout en étant incapable de dominer son cœur. Je veux goûter le suprême bonheur de la voir trahir tout ce qui est le plus important à ses yeux. Vous comprenez cela, je le sais, car le mot trahison est de vos favoris.
Non, non. Cruauté. Quel mot a autant de noblesse que celui-là?
Alors avec le Valmont des liaisons dangereuses, Jean-Claude Bologne, là, ça n'a plus rien à voir. La conquête amoureuse, ben on l'a fait pour la conquête, c'est la fin même. L'objectif, c'est ça, c'est même plus le moyen d'arriver à ses fins.
Oui, l'idéal est de montrer qu'on est un parfait connaisseur de l'âme humaine et de l'âme féminine, donc que l'on peut en jouer comme un virtuose joue d'un instrument, et finalement concrétiser cette conquête. Oui, c'est important d'une part parce que c'est une satisfaction des sens, mais on peut se fournir la satisfaction des sens autrement et surtout parce que cela prouve qu'on a gagné, qu'on a vaincu.
Mais le langage employé est un langage guerrier.
Hein. Est un langage extrêmement guerrier à l'époque, oui. Oui. La conquête, rendre les armes, tout ça, oui. Mais effectivement, ce qu'on trouve dans les grandes stratégies du XVIIIe siècle, c'est une façon détournée de déclarer son amour ou de prouver son amour qui n'a rien à voir avec l'amour. On était dans les liaisons dangereuses. Cette scène centrale où Valmont fait la charité à un pauvre dans un village en sachant qu'il est observé par un espion de la présidente de Tourvel, que ça lui sera rapporté et que du coup elle va s'intéresser à lui, c'est tout à fait typique de ces nouvelles stratégies. On ne déclare pas sa passion parce que ça peut heurter les sentiments, ça peut heurter de face, de front les sentiments de la femme, mais de façon détournée, on attire son attention sur le personnage du séducteur et on le présente sous ses meilleurs son meilleur jour.
C'est un jeu, hein. Mais c'était un livre, est-ce que c'était la réalité?
Alors, on trouve ce genre de stratégie dans la réalité. Oui, je pense par exemple à Mirabeau qui se fait passer pour l'amant de la duchesse de Lamballe pour conquérir une jeune personne et qui monte tout un scénario au bal de l'opéra où il fait déguiser un de ses amis d'ailleurs, mais pas une, en duchesse de Lamballe et une amie en Marie-Antoinette. Et il monte toute une petite pièce de théâtre indirecte pour montrer qu'il est bien placé pour séduire une jeune femme. Ça se termine dans un grand scandale. Je pense aussi à Bernadette Saint-Pierre, je pense, qui avait été prisonnier à Varsovie, dans son voyage à Varsovie, qui est délivré par la chambellane de Lituanie, et il se croit obligé de lui faire un petit brin de cour. Il lui fait un petit compliment du genre « Vous m'avez libéré, mais c'est pour m'imposer une autre prison. » Alors qu'il est amoureux ailleurs. Et il a par ailleurs des maîtresses. Mais ce marivaudage, cette façon de faire la cour aux femmes pour le plaisir de leur donner de faire un beau jeu de mots, c'est le plaisir.
C'est la galanterie, en fait.
C'est une galanterie, une galanterie qui devient presque sans objet. Oui.
Et qui devient, et contre laquelle s'insurge la Révolution, avec laquelle, comme beaucoup d'autres choses, la conquête amoureuse va changer. On va voir réapparaître le prestige du combattant à l'époque des guerres napoléoniennes. Et puis avec le romantisme, alors là, les choses changent. L'amour devient pratiquement mystique, une expérience mystique, Jean-Claude Bologne, dites-vous.
Oui, c'est la grande époque des âmes sœurs. Les âmes sont prédestinées à se rencontrer. Si on a la chance de croiser l'âme sœur dans la vie, c'est le coup de foudre. L'expression date de l'époque romantique, même si le fait est plus ancien. Et du coup, la rencontre s'impose comme une évidence. Tout en étant que le romantique peut être aussi volontiers cynique, et le coup de foudre, ça se mime. Dans les traités de séduction du 19e siècle, on trouve le moyen de mimer le tremblement, par exemple en s'appuyant sur une jambe jusqu'à ce que le corps en déséquilibre se mette à trembler, mimer les larmes en fixant une source de lumière très vive, mimer l'évanouissement, et même mimer le suicide.
Exploiter, dites-vous, par exemple, sa maladie, ce que fait la dame aux camélias, hein, qui est vraiment malade, mais qui aggrave encore sa pâleur parce qu'elle attend son amant, et quelqu'un rend, dit « Vous êtes malade ?»« Non, je l'attends, dit-elle. » Alors, il y a aussi des femmes qui commencent aussi à prendre l'initiative. Alors là, il y a des tas de techniques plus ou moins codées qui permettent à une femme de faire savoir à son soupirant ce qu'elle pense de lui. Vous parlez du langage des éventails. Alors, quand on avait un éventail, vous le dites, « Ouvrir trois lames devant ses lèvres signifie « Je vous aime ». Se frapper la main gauche de son éventail appelle à l'amour. En compter les lames invite à parler. Le nombre de lames ouvertes donne le nombre de jours pour fixer un rendez-vous. » Oui. C'est extraordinaire, c'est le langage des fleurs.
C'est le langage des fleurs, encore une fois, qui existe depuis un certain temps, mais qui se codifie au 19e siècle. Le principal recueil du langage des fleurs va jusqu'à 580 fleurs, qui distingue 155 nuances de sentiments différentes. Donc il y a effectivement une codification extrême, mais c'est aussi la première fois où la jeune fille honnête peut sortir... parfois sans être chaperonné et sans être sans passer pour une fille facile. Donc effectivement, c'est l'époque où on commence à suivre dans la rue, où l'on commence à échanger des signes discrets comme le langage des éventails et d'autres. Donc la fille est un tout petit peu plus libre qu'à l'époque classique, un petit peu moins surveillée, et ça change beaucoup de choses dans la façon dont on l'approche.
Et il y a le langage de la danse. Alors, bon, elle existait toujours, ça a toujours servi, mais les danses d'autrefois, évidemment, on était loin de l'autre, on pouvait se faire un clin d'œil, mais pas plus. Alors là, il y a une grande révolution au 19e siècle, c'est la valse qui scandalise parce que les corps se touchent.
Oui, il faut se rendre compte aussi que la jeune fille qui est à son premier bal, donc entre 16 et 18 ans, sort de son couvent, n'a jamais rencontré d'homme, et tout à coup, on la projette dans une vive lumière, les épaules dénudées, alors que toutes les autres robes sont très strictes, dans les bras d'un homme qui peut la toucher, et qui pendant 3-4 minutes peut lui dire tout ce qu'il veut à l'oreille. Et bien entendu, avec une vitesse de rotation qu'on n'avait jamais connue dans les danses. Tout ça fait que la valse a été un phénomène social difficilement imaginable aujourd'hui.
Et plus tard, le tango, la java, et puis au XXe siècle, le slow qui permettait aux hommes de tester les sentiments de leurs partenaires. C'est en tout cas ce qu'ils croyaient.
Qu'est-ce qu'il est collant, ce type ? Je dis rien parce que je veux pas faire de scandale, mais alors, quel pot de colle !
Mine de rien, je suis en train d'emballer, moi. J'emballe sec. Elle en peut plus. Je la rends dingue, la poulette.
J'ai envie de vomir. C'est la dernière fois que je viens danser. Tant pis si je vois Sainte-Catherine, mais alors... Les exciter comme ça, merci bien.
Je vais lui griffer le dos avec mon pouce. paraît qu'elles adorent ça, ces chiennes. Je l'ai lu dans une revue spécialisée. On va voir ce que ça donne. Je vais partir du bas du dos et remonter jusqu'à la nuque.
Aïe ! Mais il est givré, ce mec ! Il vient de me labourer la peau du dos avec son ongle.
Bien joué, jeune ongle. Elle est à point, là. Elle est à point. Il n'y a plus qu'à porter les stockades. Allez, vas-y, Jano. Vas-y, mon fils. Il faut conclure maintenant.
Berk. Berk, 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 berk.
Et voilà le travail. C'est pas si compliqué, les gonzesses. Il faut savoir s'imposer. C'est tout.
La drague, Guy Bedos et Sophie Domi en 1972, dans votre très sérieux livre, Jean Bologne, vous y consacrez quand même une page. Alors c'est révélateur, ça, du XXe siècle. C'est un bouleversement, le XXe siècle, dans l'art de la conquête amoureuse. D'abord parce que après la Première Guerre, les hommes et les femmes se retrouvent à égalité.
Alors l'émancipation de la femme, même très relative et très lente, a changé la donne, effectivement, et la maîtrise de la femme sur son corps. Elle ne craint plus comme autrefois la grossesse ou la maladie sexuellement transmissible.
Jusqu'à la pilule quand même.
Jusqu'à la pilule, mais là nous commençons à la pilule. Le mot drague apparaît dans les années 50 en même temps que la pilule, même si les deux faits ne sont pas liés, ils sont concomitants. Donc à partir du moment où la relation sexuelle perd ses dangers historiques, ses 2000 ans de dangers historiques et plus, on perd la distinction entre, ou on perd progressivement la distinction entre séduire pour la bonne cause, c'est-à-dire le mariage, ou non. On peut séduire une jeune fille pour une nuit en gardant ouverte la perspective du mariage. Il y a 100 ans, ce n'est pas possible. Si on séduisait une fille le premier soir, ça voulait dire que c'est une fille de mauvaise mœurs et ce n'est pas la femme qu'on allait épouser. Donc il y a un autre regard que l'on pose sur le premier pas, sur la première relation qui peut être relation sexuelle et déboucher après sur mariage, relation.
Et un premier pas que cette fois-ci font ouvertement les femmes, l'homme perd un peu son rôle d'initiateur et puis les femmes peuvent se montrer parfois aussi directes que les hommes dans le nouveau langage et sur les nouveaux lieux de la conquête amoureuse. France Inter, José Sétien, le 13 juillet 1985.
Le journal du dimanche publiera demain un sondage amusant sur les Français et la drague. Une information qui intéressera tous ceux qui, au bord des plages, goûtent cette année au plaisir de la drague. Ils trouveront dans cette enquête les meilleures recettes pour trouver l'âme sœur.
Dites, ça vous dirait d'aller tirer un petit coup avec moi à l'hôtel ?
Ça va pas, non ?
Bon, j'insiste pas.
Pas possible ! Il va faire toute la plage ! À la longue, ça risque de marcher ! Oh, dans le fond, c'est lui qui avait raison ! Les vacances, c'est la liberté. Oh, je suis conne de ne pas avoir accepté. Si j'ai envie, je vois pas pourquoi je dirais pas à un mec. Dites, ça vous dirait d'aller tirer un petit coup avec moi à l'hôtel?
Vous êtes gentil, mais...
Il est fatigué.
Je ne vois pas pourquoi je me paierais une fille vénale alors qu'en cherchant un peu sur la plage...
Gros salaud, bandit, sale type.
Vous fâchez pas, c'est logique.
Oh, je suis conne de ne pas avoir accepté.
Elle peut le dire.
Maintenant c'est trop tard.
Eh oui.
Les vacances c'est fait pour ça. Si c'est demandé gentiment.
Ben voyons.
Oh, je suis conne de pas avoir accepté.
C'est fini.
C'est la musique de Vive les femmes de Claude Confortès, tirée de la BD de Reiser en 1984. Vraiment, là-dedans, il y a toutes les nouvelles méthodes de drague dont vous parlez à la fin de votre livre, Jean-Claude Bologne. D'abord, le langage beaucoup plus cru.
Oui, et surtout ce chantage de la libération. Si on n'accepte pas les avances d'un homme, c'est qu'on est coincé. Une sorte de chantage de sentiments là, qui effectivement a marché à une certaine époque. Je ne dis pas à toutes les époques qu'il y a une sorte de retour de bâton dans les années 90 où le macho, au contraire, a eu plutôt mauvaise presse. Où d'autres modèles se sont mis en place, notamment le modèle du Allô Maman Bobo de Souchon. L'homme que l'on plaint et qui qui drague en se faisant plaindre parce qu'il réveille les sentiments maternels de la fille.
On ne tient plus compte du physique, comme pour Gainsbourg. On est séduit par la maladresse de Woody Allen, effectivement. L'homme change. Il y a aussi les lieux, hein, on l'a entendu. Il y a l'importance, évidemment, des clubs de vacances. Vous parlez même d'un club, l'UCPA, hein, l'Union Nationale des Centres Sportifs de Plein Air, qui devient un coup par an. Hein, c'est assez extraordinaire. Mais vous le dites aussi, au fond, le macho revient. Hein. On l'a ridiculisé avec Aldo Maccione, on a encensé Souchon, Gainsbourg, etc. Et voilà que le macho revient maintenant.
Et alors, c'est un phénomène, effectivement, qui, depuis une dizaine d'années, revient par les banlieues, qui revient par Internet. Et il y a des choses qui font un peu dresser les cheveux sur la tête, techniques de drague, de séduction, qui reprennent un vocabulaire agressif extrêmement ancien. Il faut tomber les poulettes, il faut tirer un coup la nuit, cette nuit. Des comportements de muflerie qui reviennent, ne surtout pas payer le verre à la fille, parce que c'est se mettre en état d'infériorité par rapport à la cible. Donc il y a toute une série de techniques de machisme qui reviennent à la mode, essentiellement par des groupes de séduction par Internet, et qui ont effectivement dans les banlieues une audience qui peut sembler inquiétante pour l'évolution des rapports entre l'homme et la femme.
On revient au début, à l'enlèvement des Sabines, alors.
On revient aussi à la façon dont les preux chevaliers traitaient les bergères au Moyen-Âge.
Une histoire de la conquête amoureuse, c'est le titre de votre livre, Jean-Claude Bologne. Merci d'être venu. C'est un livre publié au Seuil dans la collection L'Univers historique. Et puis vous venez également de publier Qui m'aime me suive, dictionnaire commenté des allusions historiques, chez Larousse dans la collection Le souffle des mots. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, L'enlèvement des Sabines de Richard Potier chez UGC Vidéo, Du Guesclin de Bernard Delatour, édité en cassette par TF1 Vidéo, Les liaisons dangereuses de Stephen Frears, disponible en DVD aux éditions Warner Bros. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Aveline Carmois et Henri Bérec, documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac.